Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 19 septembre 2025, il est 13h11 et c'est l'heure de l'agenda alternatif. Vous nous écoutez sur Radio Galère 88.4 FM ou radiogalère.org pour nous écouter partout dans le monde. Aujourd'hui, une belle émission, encore une fois, avec en première partie nos invités qui vont nous parler du festival électro de la rentrée. Et en deuxième partie, on écoutera la dernière partie du reportage qu'on a réalisé lors du tremplin jeune du Delta Festival. Et on écoutera l'interview de Anduge, donc DJ et producteur de techno, de art techno. Ça sera après 14h. Mais pour l'heure, donc, on reçoit nos invités. Aurélien et Pierre-Alain, qu'on connaît très bien ici à la Friche de la Belle de Mai, car vous êtes les directeurs du cabaret aléatoire, si je dis pas de bêtises, c'est ça ?
Ouais, tout à fait.
Tout oui. À fait, voilà. Merci d'être là et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du festival qu'on attend chaque septembre depuis 5 ans maintenant, le festival de musique électronique et de techno de la rentrée, c'est Utopia Festival. Tu t'entends pas bien dans ton casque ?
Pas du tout.
Ah, pas du tout.
Mais sinon, c'est pas grave.
Ah, parce que tu m'entends dans le... Ben, c'est bizarre, tu devrais t'entendre.
Bon, t'inquiète.
Peut-être change de casque, peut-être.
T'embête pas.
Ah, peut-être que j'avais pas le bon micro. Ouais, ou tu changes de casque, Pierre-Alain.
Bon, je t'entends, là.
Ouais, c'est comme tu veux. Donc, Utopia Festival, 5e édition, cette année. Avant de parler de la programmation et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les changements qu'il y a cette année ? Déjà, on a vu un peu un visuel différent par rapport aux années précédentes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait changer cette année ?
On commence par le visuel ou...
Ouais. Ouais, parce qu'il y a une grosse différence cette année au niveau du visuel.
Alors, cette année, on est parti d'un... principe qui consiste à dire qu'en fait Utopia c'est Marseille, ça représente la ville et du coup on a fait toute une campagne de communication avec notre graphiste historique et on a installé des drapeaux
ouais.
Dans toute la ville, dans 22 monuments de la ville.
Mais c'était...
Bien évidemment, tout le monde s'est aperçu au bout de 2 jours qu'on n'avait pas été mettre des vrais drapeaux.
Et oui, voilà, voilà. C'était virtuel. Vous nous avez fait une petite blague.
Ouais, ça n'a pas duré longtemps.
Hein. Ouais, ouais, on s'est vite rendu compte. C'est dommage, moi j'aurais aimé qu'il y ait des vrais drapeaux dans la ville.
On y a réfléchi au départ, on a installé quelques-uns, mais on était quand même... là, sur des œuvres assez monumentales hein, pour ouais. Découvrir le Mucem.
Et les drapeaux immenses en plus, des drapeaux assez immenses.
Mais par contre, le graphiste a beaucoup bossé parce que c'est vraiment un vrai travail, la manière dont c'est très, 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 très...
Ouais, technique, quoi.
Et oui, et très réaliste.
Oui, hyper réaliste. Mm. Non, c'était très bien fait. Donc ça, c'était la petite campagne de com qui a commencé avant l'été, hein, je crois. C'était ça,
c'était... Oui, c'était le teaser, c'était avant même d'annoncer.
Ouais,
c'est
voilà.
Comme ça qu'on a fait, qu'on a lancé, on va dire, Utopia. Ces drapeaux, comme disait Pierre-Alain, c'est un peu pour nous, c'est un peu l'étendard, c'est-à-dire Utopia, c'est Marseille, ça représente la ville, ça représente toutes les composantes de cette ville, toutes les communautés, c'est rassembler toutes les familles de Marseille autour d'un projet, d'une cité idéale, et c'est un peu le message qu'on voulait mettre en avant pour cette 5e édition.
Mais le truc de la cité idéale et tout ça, c'était déjà le cas les autres éditions, moi je me souviens. C'est pour ça que ça s'appelle Utopia d'ailleurs.
Oui,
tout à fait.
et donc là, oui, là, vous avez mis le paquet sur le coup des drapeaux pour représenter vraiment l'emblème de la cité, j'imagine.
Mais parce qu'aussi on pense que la cité idéale, c'est Marseille, sur ce que ça représente, ah ouais. En termes de diversité, en termes de... Voilà, tout ce qu'on raconte cette ville, en fait, nous, on pense qu'on peut le raconter à l'endroit des musiques électroniques en termes de valeur, en termes de, enfin, de créativité, en termes de vivre ensemble, en termes d'expérimentation. Voilà, pour nous, Utopia, c'est Marseille. Voilà.
Utopia, c'est Marseille. D'accord, il y a quand même des choses à dire sur Marseille qui sont un peu moins belles, qui ne sont pas une utopie. Mais pour vous, ça l'est. C'est ça.
C'est pas parce que effectivement c'est tout n'est peut-être pas idéal, mais l'idée c'est que on peut faire quelque chose de positif, on peut rassembler toutes les composantes de cette ville autour d'un projet, autour d'une fête, autour de découvertes, d'expériences, et c'est un peu ça nous on veut tirer vers le voilà, c'est un peu une manière de tirer vers le haut. Même si le festival, c'est un festival de musique électronique et de culture électronique, nous on s'est dit en fait que Utopia, c'est aussi, ça doit s'adresser à tous les publics en fait. On peut passer une bonne soirée même si on n'est pas un amateur ou vraiment quelqu'un qui suit l'actualité de ces musiques, même si ce n'est pas notre activité au quotidien, on peut trouver dans ce festival des raisons et une façon de passer une très belle soirée, un très beau week-end, quoi.
Et de toute façon, la musique électronique, aujourd'hui, c'est ouverte à plein de publics très différents. Et on le voit dans ce genre de festival, d'ailleurs. Même si c'est un festival qui reste pointu, quand même, hein, au niveau de la musique électronique.
C'est pointu, mais c'est un festival qui est aussi transgénérationnel. Quand on va à Utopia, on voit qu'il y en a on a des publics jeunes, c'est-à-dire les nouvelles générations qui rentrent dans les musiques électroniques. Mais on a aussi, j'allais dire, des trentenaires, des quarantenaires, des personnes qui sont plus âgées, qu'on vécu ces différentes vagues des musiques électroniques, ces différents courants. On voit que ça rassemble quand même les familles. Enfin, ça, on en revient à la question de l'étendard, des drapeaux, mais c'est aussi des différentes familles de public. On a différentes générations, on a différents courants, on a les amateurs de tel ou tel style de musique et d'esthétique. C'est un peu ça quand même aussi, Utopia.
C'est un festival qui est fait... Alors, bien évidemment, il est pour les Marseillais, mais c'est... Quand on dit que c'est Utopia, c'est Marseille, c'est que c'est... À partir de Marseille, c'est ce que raconte Marseille. Cette année, on a 50% des artistes qui sont internationaux, qui, je pense, d'une douzaine de nationalités différentes. Chaque année, donc cette année, on ne sait pas encore, on n'a pas encore fait les stats, on a à peu près dans le public 25 nationalités différentes qui viennent. Donc en fait, il a une vocation internationale, mais ce qu'on veut raconter, c'est que c'est à partir de Marseille.
Ah, ça, vous pouvez le voir que dans le public, il y a 25 nationalités. C'est par rapport à quoi à l'achat de la billetterie, en fait?
Les tickets, oui, c'est référencé d'où viennent la provenance géographique
c'est
des...
Super.
Ouais, on est en mesure de dire la provenance et la parité aussi au niveau des publics.
Ouais. Et c'est vrai qu'on constate, hein, moi je le constate en étant ici à la Friche, qu'il y a de plus en plus de touristes et d'étrangers qui viennent même aux soirées de la Friche, aux différents festivals et événements. C'est vrai que j'ai constaté depuis un ou deux ans un énorme boom des touristes, des étrangers qui viennent à la Friche. C'est vrai qu'on le voyait un peu moins avant. Il y a eu une grosse notoriété, un gros truc autour de la Friche aussi.
C'est, oui, on voit bien qu'on constate la même chose que toi, hein. C'est exactement ça, effectivement, de plus en plus, même dans les soirées, en dehors de l'été, je veux dire, on voit que très régulièrement le week-end, on a des groupes d'Espagnols, d'Allemands, d'Italiens, de Chiliens, enfin ça peut venir un peu partout dans le monde, mais qui ont intégré la Friche dans leur parcours à Marseille.
C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, il y a le côté très cool de venir à la Friche. Donc Utopia, c'est la semaine prochaine, hein.
Oui.
Ouais, c'est la semaine prochaine. On a parlé de tout ce qui est visuel. Bon, on a bien compris aussi ce truc de la cité idéale avec Utopia et ça depuis 5 ans. 4 scènes, 4 espaces cette année.
Oui.
Je crois que c'est pareil que l'année dernière, les 4 espaces. Quoi qu'il y en a un petit nouveau.
Il y en a un petit nouveau.
Voilà.
Alors qui s'appelait le petit théâtre et qui devient le petit cab.
Ouais.
Donc la salle qui est juste à côté du cabaret aléatoire et donc qui vient compléter les 3 autres scènes qui sont le cabaret aléatoire évidemment, la scène du parking.
Qui est là sous nos pieds.
Et puis la scène principale, la main stage, qui est la cartonnerie. Voilà. Nous, cette quatrième scène, effectivement, avec la rénovation de cet espace, ça nous permet de proposer une jauge aussi différente. Le petit cab avec 300-350 personnes. Ça permet de proposer d'autres projets. Il y a un côté un peu plus immersif. Il y a un rapport entre l'artiste et le public qui est beaucoup plus proche, de proximité. C'est assez intéressant. Et nous, on a dédié cette scène cette année au live.
Ouais, c'est ce que j'ai bien lu. Il y aura du live.
C'est que du live, c'est que des projets très particuliers. Alors, le live dans toutes ses formes, du live hybride, du live audiovisuel, du live avec voix, du live avec instruments, du live avec machine. Enfin, bon, c'est vraiment des. C'est une scène qui est dédiée au live et à l'expérimentation, à un côté un peu immersif. Ouais.
Et des projets plus expérimentaux, du coup, pour voir ça entre deux gros sets.
Voilà, c'est chaque soir, ce seront des rendez-vous avec des horaires fixes pour les. Voilà, des rendez-vous avec le public pour voir telle performance, tel live. C'est pas une scène en continu par rapport aux autres scènes où effectivement il y a un enchaînement d'artistes. Pour le petit, pour cette scène-là, pour le petit théâtre, c'est vraiment des rendez-vous publics à des horaires fixes. Voilà.
Ah, mais ça va être très intéressant. Il y avait déjà, je me souviens, dans les éditions précédentes, une scène un peu plus cachée, un peu plus intimiste aussi. Mais là, vous avez poussé le curseur encore plus loin en proposant ça. C'est ça ?
Là, on a vraiment voulu marquer le coup. C'est des projets qui nous tiennent à cœur. Et plutôt que de les placer au milieu d'une programmation, c'est dire on va créer un espace qui sera dédié à ce type de projet. Après, on va voir comment réagit le public, mais ça, c'est vraiment, ça peut donner des très beaux rendez-vous, hein, que ce soit Aziz Concrete avec son projet qui est complètement qui est assez incroyable.
Et qui a été créé au cabaret.
Ah oui.
Avec une résidence, oui, qui a été en résidence au cabaret. Donc on est très curieux et on a hâte de voir effectivement la représentation avec la vidéo, avec des capteurs aussi. Enfin, c'est un live. On va pas tout dévoiler, mais
il faut pas dévoiler, mais le truc est complètement dingue.
C'est assez fou, mais mais tous les projets sont un peu particuliers. Promise, c'est un duo belge queer qui est dans une mouvance un peu ascendant vierge. Enfin, un truc assez assez énervé, grosse performance, qui fait des gros festivals qu'on n'a pas vu encore ici. Cora Novoa, une artiste espagnole qui fait du live AV, qui est aussi bien à Sonar ou Mutec, dans des scènes quand même qui sont très très spécialisées, importantes pour mettre en avant des projets artistiques audiovisuels. Donc on a vraiment quand même une palette d'artistes et de live, je pense qu'ils sont vraiment intéressants à découvrir.
Ah oui, en tout cas, ça me donne envie. Ça me donne envie, beaucoup de curiosité d'aller voir donc, cette salle. Donc, le petit théâtre, c'est sur votre site, ça s'appelle comme ça. Mais en réalité, c'est le petit cab dont on a fait l'ouverture hier soir.
Donc, c'est le petit cab depuis hier, oui.
Ah oui, donc vous l'avez changé. Du coup, sur votre programmation aussi, vous l'appelez. Non, ça reste le petit théâtre. Ouais, mais c'est bien aussi le petit théâtre.
Comme on a lancé Utopia avant que le nom soit défini, on n'a pas, voilà, on a.
Vous n'aviez pas encore le nom du petit cab en tête.
Les agendas se sont croisés.
D'accord.
En fait.
Ok.
Mais avec nous-mêmes, hein, puisque de toute manière
oui,
le petit cab.
Ouais, c'est dans votre tête, c'était pas encore clair sur le nom du petit cab. Pourtant, c'est un très bon nom. Donc pour les auditeuristes là, le petit cab, ça a été ouvert hier. C'est adjacent, c'est vraiment à côté du cabaret aléatoire qui maintenant va s'appeler le Grand Cab, si j'ai bien tout compris. Est-ce qu'on peut continuer de dire à cabaret aléatoire ou c'est fini ?
On doit totalement continuer à dire le cabaret aléatoire. Le Grand Cab est l'espace physique.
D'accord, et le cabaret aléatoire,
c'est le projet qu'on porte depuis 20 ans.
Oui, c'est une SMAC.
Oui.
C'est une SMAC plus dédiée aux musiques électroniques.
Et c'est la seule SMAC à Marseille.
Ouais.
Et c'est aussi la seule SMAC en France qui n'est pas généraliste et qui est dédiée aux musiques électroniques et aux cultures électroniques. Et on est très fiers de se batailler à cet endroit-là. Mais on se bataille.
Oui, j'imagine. Et donc, le petit cab, un petit mot vite fait, parce que ça a été inauguré hier. Je pense que la première soirée, ça sera demain. Ou ce soir, demain ?
Non, c'était hier.
Non, oui, hier, mais la première vraie date, hier, c'était l'ouverture, quoi.
Oui, c'était une ouverture avec une programmation collective.
Oui, avec une programmation, oui, bien sûr.
Mais ce soir, je faisais ce soir, la suite, c'est ce soir.
D'accord, ouais. Ok, ouais, c'est ce week-end, en fait, le week-end d'ouverture du Petit Cab. Juste deux mots là-dessus, parce que vous n'êtes pas venu pour parler du Petit Cab, mais vous faites partie du projet aussi. Et la programmation sera un peu différente que celle qu'on avait l'habitude de voir au cabaret aléatoire. Ça va s'ouvrir sur d'autres musiques actuelles, si j'ai bien compris.
Oui, c'est le projet, c'est ça, c'est comment enrichir la programmation de musique actuelle à la Friche, comment diversifier cette programmation, comment utiliser, optimiser un nouvel espace qui est plus propice, on va dire, pour des formes de résidence, pour d'autres types de projets, avec une autre capacité aussi, avec d'autres coûts, plus faciles à mettre en œuvre pour des projets plus petits ou qui ne nécessitent pas les mêmes investissements techniques. Donc c'est vraiment, c'est une offre qui doit être complémentaire sur le site. Le but, c'est pas de reproduire, c'est pas
la même chose.
C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas ça le projet. Et c'est aussi, c'est permettre. Alors d'abord, aux opérateurs. Enfin là, on est dans Bizou, on est quatre avec l'AMI, Radio Grenouille, Bipol et Cabaret Latoir. On peut faire des projets ensemble. C'est des coproductions. C'était le cas pour l'inauguration. Mmh. C'est une programmation commune. C'est une coproduction avec la Friche aussi. Et mais parfois, ça va être ce soir, c'est Bipol qui programme seul et qui produit seul. Parfois, on va être à deux, parfois, on va être à quatre.
D'accord. Voilà. Ok. Oh non, c'est très, très intéressant. Mais,
En termes de diversité, pour donner. Alors, pour dire par rapport au cabaret aussi, sur ce. Sur le petit cab et sur la coopération avec Bizou, notre première date, nous, en direct au cabaret aléatoire. Au petit cab. C'est Aston Villa.
Ah ouais.
Donc tu vois, on est. C'est pour ça qu'on prône. C'est ouvrir les esthétiques qui sont présentées à la Friche, voilà, et élargir la question uniquement des musiques électroniques que nous on porte depuis 20 ans.
Mais moi je me souviens, parce que je suis là depuis longtemps aussi, je me souviens au cabaret aléatoire de voir des concerts de musique actuelle qui n'étaient pas de musique électronique. Moi je me souviens de voir des rappeurs, des groupes de pop, de rock, un peu de tout au cabaret aléatoire. Et il y avait une question un peu, est-ce que ça allait revenir ce genre de concert au cabaret? Du coup ça sera plus sur le petit cab.
Alors non, au cabaret le hip-hop est revenu, il y a quelques concerts qui sont revenus.
Enfin, chaque année,
on fait le festival Funky Fest. Voilà. L'année dernière, on a fait l'UJPK. Cette année, on bosse sur un autre festival de hip-hop. Donc le hip-hop est revenu, les concerts sont revenus, mais effectivement, le petit cab va aussi permettre de revenir à d'autres esthétiques que celles entre guillemets, qu'on développe quasi exclusivement depuis 2014, depuis qu'on est smack dédié aux musiques électroniques.
Voilà. Ah, c'est parce qu'en 2014, ça a été dédié aux musiques électroniques.
D'accord. En 2014, on s'est demandé à quoi... l'endroit où on pouvait avoir le plus besoin de nous.
Ouais. En fait, c'était une réflexion un peu territoriale. Il y avait la question de l'espace Julien, Moulin, la Franchie. Mmh. Et il y avait déjà cette idée de coopération, comment travailler ensemble, comment ne pas se mettre en concurrence. Et par rapport au choix plus généraliste ou les spécificités des uns des autres, nous on s'est dit en fait que notre valeur ajoutée, d'ailleurs qui faisait partie de toute façon de l'ADN du cabaret aléatoire, elle était sur les cultures et les musiques électroniques, puisque les autres salles voulaient à l'époque voulaient pas l'aborder, en tout cas c'était pas leur priorité ou leur cahier des charges ou ce qu'ils s'étaient donné. Donc finalement, nous, on s'est dit, ça va permettre d'avoir une offre sur le territoire complémentaire. Ouais. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice, va faire un type de programmation sans se marcher dessus, sans faire la compétition pour avoir l'artiste et mettre le billet de plus, etc. Donc c'était une forme déjà de mise en cohérence et de coopération. Voilà. Après, ça n'empêchait pas quand même d'avoir un projet coup de cœur, un concert, un festival sur une autre esthétique. Mais c'est de donner une ligne directrice et une lisibilité à la programmation. Quoi.
Et pour le public aussi, vous avez eu du nez finalement d'avoir fait ça. Parce qu'aujourd'hui, le cabaret aléatoire à Marseille et en dehors de Marseille, on le connaît comme soit le club de Marseille, parce que ça fait club aussi le vendredi soir, soit vraiment l'espace dédié aux musiques électroniques, et il est réputé et connu en France grâce à ça.
Pas mal de gens utilisent le mot institution.
Oui, c'est une institution, oui, ça l'est devenu. Bon, ça, c'était notre petite aparté sur le petit cab, le cabaret aléatoire. Donc, le petit cab, on rappelle, une capacité de 350 personnes à peu près. Hein, donc, on est sur une jauge bien plus petite que le cabaret. Mais un espace très sympa, hein, pour l'avoir visité hier, bien décoré, très sympa. On reste dans l'esprit friche. À fond. Et moi, je me souviens, cette salle, c'était la salle des bénévoles de l'Utopia Festival, d'ailleurs. Ouais, c'était pas la salle des bénévoles, celle-là ?
Ouais, elle a servi plusieurs... Ouais.
Oui, il y a 2 ans,
ouais,
je crois.
Ouais, il y a 2 ans, et sur d'autres festivals, c'était là où se calaient les bénévoles, mais moi, je me souviens à l'Utopia de le voir pour les bénévoles, cet espace. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a 2 ans, j'avais dit, purée, il faut vraiment faire quelque chose, parce que c'est un super espace, et c'est cool que vous l'ayez fait. Du coup, on revient donc à l'Utopia Festival qui se tiendra la semaine prochaine, donc vendredi, samedi. Ouais. J'allais dire dimanche, mais non. Vendredi, samedi. On n'a pas trop parlé de la programmation. Donc, tu nous as parlé de la programmation de ce petit théâtre avec des choses plus expérimentales. Mais il y a aussi une grosse programmation avec des DJ, des producteurs et des productrices de musique électronique et techno. Reconnu dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez m'en dire 2 mots ? Cette prog. Ouais.
Oui, alors il y a le fil conducteur, il y a à la fois une forme de parité entre artistes ouais. féminines, artistes masculins. Ça fait partie aussi de l'ADN et des valeurs et de ce qu'on veut développer, mettre en avant dans le festival. Et puis sur la question des. C'est un festival où, effectivement, comme disait aussi Pierre-Alain, il y a il y a une part belle qui est offerte aux artistes du territoire. C'est pour ça qu'ils représentent entre 40-50% de la programmation. Et puis, après, on est, quand on construit cette programmation, on veut à la fois, offrir un panorama des musiques électroniques du moment. Mais aussi, en lien avec l'histoire, on veut quand même rappeler que aujourd'hui la scène et les musiques qui sont sur le devant de la scène aujourd'hui, la dynamique de cette scène, elle est liée aux différents courants, aux artistes qui ont parcouru justement ces dernières décennies. Il y a toujours ce lien avec l'histoire en fait. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'on retrouve, des artistes un peu emblématiques et puis des artistes vraiment super émergents ou qui sont les artistes du moment qui ont explosé très récemment ou de manière plutôt assez exclusive, c'est-à-dire qu'on cherche quand même à programmer des artistes qu'on n'a pas vus et revus à Marseille. Il y a quand même cette notion très importante d'exclusivité. Donc cette année, si on devait présenter plus dans le détail, donner des noms, c'est vraiment... On a essayé de distinguer peut-être plus que les autres années les différentes salles, c'est-à-dire le propos artistique dans chaque salle. Donc on l'a vu pour le petit câble, c'est le live, c'est vraiment, live, c'est une DA voilà, très spéciale. Le cabaret aléatoire en lui-même, ça sera une scène dédiée plus à la house, tech house minimale.
Ouais.
Le vendredi, avec des représentants de la scène locale, que ça soit le duo les filles Merica, que ça soit Vanessa M, Lamoroso, Alia, et puis la personne qui gagnera le concours, parce qu'on a fait un tremplin pour pour ouvrir cette scène là un tremplin house. Alors d'une part parce qu'on trouvait ça bien aussi de promouvoir les nouveaux artistes du territoire, mais sur une esthétique qui est peut-être pas toujours hyper représenté, sur la scène marseillaise. On sait qu'il y a un gros boom sur la hard music et que c'est quand même il y a beaucoup d'artistes qui rentrent par ces musiques-là et beaucoup de public. Là, on a voulu, promouvoir, un artiste issu de cette scène house.
De la scène house, ben c'est bien aussi de revenir à la house.
C'est bien aussi.
C'est sympa, ouais. Donc, on aura le résultat du tremplin quand ça?
Eh bien, ça va être... c'est ce soir ou demain.
Ah, ok. Sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux, il y a
de
le...
Utopia et de cabaret.
On a fait une présélection et...
Oui, la présélection a été communiquée hier ou avant-hier. Et
le résultat, c'est le résultat ce soir ou demain.
Vous avez eu combien de participants?
Oui, il y a eu...
J'ai pas en tête, mais... Non, on a eu beaucoup, on a été agréablement surpris par le nombre que j'ai pas en tête, et on a gardé 7 dans la présélection, je crois.
Ouais, c'était plus d'une vingtaine de candidatures, 25 je crois, et on a fait une présélection à 7, et résultat dans les 24 heures.
Des résultats dans les 24 heures, donc des DJ locaux pour la majorité, ceux qui se sont présentés.
Oui, c'est un peu ce qu'on avait, c'est un peu le cahier des charges qu'on avait demandé, c'est-à-dire artistes de la région sud. Ouais.
Ok. Bon, ben on verra ça donc de ce soir ou demain sur les réseaux de Utopia et du cabaret aussi, j'imagine.
Oui, ouais. Bien sûr.
Et cette personne ouvrira le vendredi soir, c'est
ça ? Le vendredi soir, c'est la scène. Voilà. Et alors sur la programmation, le lendemain. On est sur une carte blanche sur un concept qui s'appelle Get Rome, qui est donné à l'artiste donc Tromeur.
Ouais, toujours au cabaret.
Toujours au cabaret, même scène. Le son un peu différent, mais on est quand même sur une forme de tech house groovy.
Très sympa.
Et Tromeur, qui est un artiste qu'on connaît bien à Marseille, parce qu'il a été, une période de sa vie à Marseille et résident, dans cette ville. Un artiste qui a explosé à l'international, qui aujourd'hui parcourt les plus grosses scènes. C'est l'un des artistes, il faut le savoir, qui joue le plus, qui doit jouer 20-25 dates par mois. C'est assez incroyable, sa carrière au niveau international.
Tous les jours de l'année, quoi.
Il a une dynamique assez incroyable, parce qu'il est producteur à côté. Enfin, c'est un hyperactif.
Oui.
C'est un talent fou aux platines. Et voilà, et ça fait très longtemps qu'on avait ce projet de lui donner une scène, de dédier une scène. Il a une Get Rome, c'est son concept où il invite des artistes, des amis pour donner une tonalité festive sur une scène du festival. Donc ça colle complètement à Utopia, ça nous donne quelque chose qui va être assez joli, je pense, le samedi aussi. Ouais.
Donc le samedi, dans la salle cabaret. Ouais. Ensuite, les autres salles, la grosse main stage, c'est la cartonnerie.
La cartonnerie, donc la plus grande scène. Le vendredi, on est sur une programmation techno, mais plus à l'ancienne, plus berlinoise, avec très, très groove, mais aussi mental, avec du Mark Broom, avec Sam Paganini, on va dire, qui est une figure emblématique. De la techno. Et puis Nastia, qui est une artiste ukrainienne qui a beaucoup de facettes, qui est productrice, qui a participé au développement de plein d'artistes au niveau international, pas que dans son pays, et qui est multicasquette aussi musicalement, qui est une très bonne productrice, qui est une très bonne DJ, et qu'on est ravis d'accueillir. Mais là, on est sur une techno quand même... effectivement plus à l'ancienne de ce qu'on est, donc c'est un peu aussi une manière de donner une tonalité à cette salle. Tonalité plus rêve, plus on va dire berlinoise, Bergheim, si on veut simplifier.
Et on reste aussi au niveau du décor dans un truc très berlinois. De toute façon, la friche, c'est comme ça, hein, le côté très industriel. Donc ça, c'est pour le samedi, le vendredi, le samedi aussi, des gros noms quand même.
Alors le samedi, le son sera un peu différent. On quitte la techno berlinoise pour aller plus sur quelque chose de techno plus mélodique.
Ouais.
Minimal parfois, mais un peu plus mélodique. Il y a un duo. Alors en live, on a Wu York, qui est un duo alors aussi ukrainien. C'est un peu. C'est un peu aussi une marque de cette édition.
Ouais. D'avoir ouvert à des DJ ukrainiens.
Oui, d'avoir des artistes qui sont extrêmement talentueux, mais aussi d'apporter, on va dire, un petit message de soutien symboliquement, d'avoir de leur ouvrir cette programmation.
Et en plus, la scène de musique électronique en Ukraine est hyper hyper active et prolifique et de qualité. En plus.
Tout à fait. Donc là, c'est un live, c'est un super live New York, vraiment à découvrir. Entre mélodique et minimal. Et puis on a 8Ks, qui est une artiste qui évolue aussi sur le label Afterlife,
qui est aussi sur de la techno mélodique.
C'est aussi sur de la techno mélodique, qui peut aller jusqu'à de la techno un peu plus groovy, mais on est un peu dans cette vibe là. On a une artiste qui est, on va dire, qui a qui a un peu explosé, qui est plus mainstream, qui s'appelle Anfisa Les Tiago, mm-hmm. qui a son label, qui a pas mal de projets artistiques, et qui est, on va dire, qu'on voit sur des très grosses scènes un peu partout dans le monde, mais qu'on ne voyait pas tellement à Marseille, donc on s'est dit que c'était bien de la proposer au public ici. Et puis on a un B2B un peu exclusif entre Marie Vaunt et Maïri, qui sont deux artistes entre mélodique et techno. Et c'est la première fois qu'elles vont jouer ensemble. Elles ont des projets artistiques qui sont en cours de développement ensemble. Ouais.
Belle programmation donc pour cette grande scène de la cartonnerie. On va passer à la suite, mais avant ça, on va écouter un petit son. Tu nous en parlais du DJ qu'on ne présente plus, Sam Paganini, avec un de ses titres qu'il a sorti il y a longtemps maintenant, le titre Plastique. Et on se retrouve dans 5 minutes pour continuer de parler de la programmation. Et voilà, toujours sur Radio Galère, l'agenda alternatif. On écoute Sam Paganini avec Plastique. Thank you. C'était donc Sam Paganini avec le titre Plastique. Et là, c'était un titre en live. Hein. Ça, c'est le titre que je viens de vous passer. C'était, il jouait en live. Ouh, des petits soucis de micro. Mais je ne sais pas ce qui se passe avec le studio, là. Mais tant que vous m'entendez...
Oui.
Ah, bah, c'est parfait, alors. Tant qu'on m'entend...
Nous,
c'est...
oui. On ne sait pas. Les auditeurs
oui,
aussi.
Oui, oui. Normalement, ils entendent très bien parce qu'on a des retours du côté de l'admin là-bas. Ils me disaient qu'ils entendaient très bien. Donc il n'y a pas de souci. Donc, Aurélien et Pierre Inlin, on est là pour parler de l'Utopia Festival qui se tiendra la semaine prochaine. À partir de vendredi, donc c'est vendredi, samedi, cinquième édition de cette Utopia Festival, le festival de la rentrée, on va dire, dédié aux musiques électroniques et techno. On a parlé de trois différentes scènes, donc la scène du petit théâtre qui est plus expérimentale, celle du cabaret aléatoire qui va être plus house le vendredi et le projet de Traumer le samedi. La scène de la cartonnerie, donc grosse scène, hein, la main stage du festival qui va être plus techno-berlinoise le vendredi avec notamment Sam Paganini qu'on vient d'écouter et plus mélodique samedi. Voilà, j'ai bien résumé, je crois, la situation.
Tout à fait.
Parfait, on t'embauche.
Voilà, très bien, pas de souci. Et donc, il y a une dernière scène, celle qu'on aime beaucoup, celle que les Marseillais aiment beaucoup, c'est la scène du parking qui, elle, on l'a deviné, est plus sur les musiques hard techno, hardcore.
Oui, c'est traditionnellement, cette scène, on l'a dédiée à cette, aux musiques hard et au courant hard des musiques électro. Alors cette année, il y a une spécificité, c'est qu'il y a quand même aussi une distinction entre vendredi et samedi.
Ouais.
Le vendredi, on est plus sur un hard trance, sur une musique plus bouncy.
Ouais.
Alors que le samedi est vraiment sur de la hard tech. Voilà. On a un peu catégorisé un peu le vendredi et le samedi sur des esthétiques un petit peu différentes. Alors après le rythme, le tempo est très
voilà.
Accéléré dans tous les cas. On est bien d'accord. Ça reste quand même des musiques voilà.
Et la particularité aussi, c'est que ce sont beaucoup de DJ et producteurs locaux qui investissent cette scène, qu'on connaît très bien et qu'on adore d'ailleurs. Tu peux nous dire qui vient ? On les connaît tous, hein. Mais vas-y, je te laisse les citer.
Alors, en producteurs locaux, on a un combo qui est composé de Manil et Picsou, qui s'appelle Fast Gen,
qui est en
pleine explosion, pas qu'à Marseille, hein, qui sont vraiment incroyables et qui jouent maintenant partout en France et qui vont se développer, je pense, de manière... exponentielle. On a évidemment aussi les artistes du collectif Omerta qui sont associés au cabaret qu'on retrouvera sur cette scène. Je pense à Blasty, je pense à David Boots. David Boots qui sera en B2B avec Aura, qui est une artiste aussi de Marseille.
Mm-hmm.
Donc c'est un peu toute cette génération et toute cette scène effectivement qui se retrouve. Qui se retrouvera là
sur la scène du parking le vendredi soir.
Voilà, le vendredi et le samedi, ils seront répartis.
Ouais.
Après, on a des artistes, évidemment, on a des têtes d'affiche assez incroyables aussi, qui viennent compléter ces plateaux. On a un live notamment de Miss Bashful et DBBD. Miss Bashful qui est, on va dire, une showgirl qui est vraiment assez incroyable et DBBD qui est un très bon DJ à la base. Ils ont un projet ensemble où elle est à la voix et lui il est au mix et c'est une performance que on va dire qui retient bien l'attention et qui est assez explosive. On a Bad Boombox le vendredi soir qui va faire le closing, qui est aussi un artiste complètement exceptionnel. On a plutôt des grosses performances sur cette scène-là et sur le vendredi. On a Miss Jacques qui est une artiste américaine qui n'a pas trop joué encore à Marseille. Je pense que c'est sa première date à Marseille. Et voilà, on a vraiment une équipe qui est assez, c'est assez costaud, on va dire, comme line-up et comme ambiance. Ça va être assez explosif le vendredi. Et le samedi, on a des artistes qui sont très attendus aussi dans Art Techno à Marseille, que ça soit Somwen, Uberest, qui n'a encore jamais joué, ou Andy, qui est une valeur sûre aussi de cette scène-là. On a vraiment quand même, j'allais dire, des poids lourds, des artistes assez emblématiques de ces esthétiques. Ouais.
Et on n'a pas dit qu'il y avait Anthony Capaldi quand même. On l'embrasse, Anthony Capaldi.
On avait gardé Anthony pour la fin.
Pour la fin, il sera là le samedi hein, sur la scène du parking.
Il sera là le samedi, mais sur la scène du...
Mais il me l'a dit, en plus, à la cartonnerie.
La cartonnerie.
Et oui, il me l'a dit, il était hyper content de faire la main stage. Je crois qu'il fait l'ouverture, non ?
Tout à fait.
C'est ça, ouais, ouais. Quand je l'ai rencontré la semaine dernière, je crois qu'il m'a dit ça, il était fier. Hein.
Et oui.
Non, c'est cool. Donc, Anthony Capaldi d'Omerta, qui est venu plein de fois dans l'émission, et qu'on embrasse, et qui est aussi producteur. Hein. Il n'est pas que DJ, il est aussi producteur. Donc, c'est cool. Donc, merci. Là, je crois qu'on a fait vraiment le tour de la programmation. Là, je pense que tu n'as oublié personne. Il y a tout le monde qui a été cité. Tu voulais dire quelque chose ? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec ton micro. Je crois que le mieux, c'est que tu changes de micro. Peut-être te mettre de l'autre côté. Mais ouais, je disais, il y avait un souci avec son casque, un souci avec son micro. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, alors c'est Pierre-Alain qui change de place. Et te mettre ici, et je pense que là, ça sera mieux. C'est bon ?
Ouais. Bah, moi, j'ai toujours un problème avec la technologie, voilà. En général.
Ouais, c'est quoi ? C'est les ondes ?
Ah, je sais pas, écoute, si je me mets à côté de ton ordinateur, il plante.
Ah, mais c'est peut-être pour ça, alors, là, que ça marche pas bien. Non, ben, là, on est bon, normalement, on est bon. Bon, c'est quasiment la fin de votre interview, mais au moins, pour la fin, tu auras le bon micro.
Non, je voulais juste rajouter un truc sur la programmation, c'est que, quand même, une des marques de fabrique d'Utopia, c'est quand même des artistes rares. Bon, je vais pas critiquer d'autres festivals, c'est pas du tout mon propos, mais effectivement, si ces plateaux-là, si tu les vois pas... pendant Utopia, c'est pas des plateaux que tu vas retrouver dans d'autres festivals en France. Donc pour nous, la question de la rareté, de la spécificité artistique est quand même très 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 centrale. Après, chaque année, il peut y avoir quelques différences avec une scène en plus cette année liée à des formes live et expérimentales. Par exemple, cette année, c'est un plateau et c'est pas totalement volontaire, mais qui est quasiment à 50% composé d'artistes du territoire, à 50% d'artistes internationaux. Il n'y a quasiment pas d'artistes nationaux. C'est pas une marque de fabrique, mais en tous les cas...
Ça n'a pas été fait exprès, quoi. Là, en plus, le 50-50
Non, ce à quoi on fait très attention, c'est sur la place des artistes du territoire. Mmh. Mais effectivement, cette année, la prog est très, 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 très internationale et très, 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 très locale. Désolé pour les autres villes de France, mais... C'est comme ça, voilà, on fait aussi attention, mais on ne s'impose pas de quotas à ce que cette programmation soit paritaire.
Ouais.
Ça l'a
toujours été, d'ailleurs.
Ça l'a toujours été, oui.
Souvenir des autres éditions, c'était pareil. Hein.
Ouais. Bah, l'année dernière, elle était plus que paritaire, puisqu'il y avait beaucoup plus d'artistes féminines que
ouais.
Voilà, mais en fait, on court pas après un quota, on essaie de raconter que les artistes soient... ce qui compte, c'est que la programmation soit paritaire et que les artistes jouent sur les bons spots et qu'on n'est pas en train de compléter des plateaux en se disant il va falloir trouver des artistes féminines. C'est qu'on est des artistes féminines, tête d'affiche, qui ont des projets qui nous paraissent importants, crédibles. Voilà, je lisais une étude il y a quelques jours, voilà, sur les festivals en France. Ou pour atteindre maigrement 20% d'artistes féminines, ils font jouer les trois mêmes dans tous les festivals. Effectivement, c'est pas. Du coup, on n'est pas. Bon, j'y étais à la HN dans mon explication.
non, mais on a bien compris. Merci beaucoup, Pierre-Alain, pour cette explication sur la programmation donc, de Utopia Festival. On rappelle les infos pratiques. Donc, vendredi au samedi, je n'ai pas donné les horaires.
C'est 21h30, 6h du matin, les deux soirs.
Ok, nickel. Sur des horaires parfaits pour ce genre de musique. Et autre info pratique, les billets sur Shotgun, j'imagine, comme d'habitude.
Tout à fait.
Il y aura de la billetterie sur place ?
Non, c'est... Non. C'est
exclusivement sur
C'est exclusivement Shotgun. Mais après, sur place, on peut scanner et
oui,
prendre son billet.
Oui, le faire même au dernier moment, on peut l'acheter.
Devant la friche, oui.
Vous avez des tarifs early et tout ça, ou c'est fini, ou vous avez mis tout au même tarif ? Comment ça se passe ?
Non, on fait en sorte d'être le plus accessible possible au départ, mais pour ça, effectivement, il faut prendre son billet un peu plus tôt et pour bénéficier de ces tarifs-là. Là, aujourd'hui, on est dans les dernières phases, on est sur des tarifs, sur les tarifs late, mais qui restent très raisonnables, j'allais dire, par rapport au prix des autres festivals. On a à cœur d'être accessible, on est autour de 35 et 40 par jour.
Ouais. Ouais, ok, donc ça reste, oui, un prix très raisonnable comparé à d'autres festivals, on est bien d'accord.
C'est ça.
On est bien d'accord. Oui, tu voulais dire...
Non, je voulais rajouter un dernier truc, c'est qu'en fait, le vendredi à 18h, on a des rencontres professionnelles. Je ne vais pas rentrer dans le détail du sujet des rencontres. Le sujet principal, c'est quand même de se questionner sur la reconnaissance des musiques électroniques et des cultures électroniques en France. Et c'est un sujet vraiment qui nous questionne à peu près tous les jours, parce que pour nous, c'est un secteur, une filière qui représente des valeurs auxquelles on tient beaucoup. Et donc, voilà, on a un certain nombre d'invités, peut-être qu'on peut citer certains, mais sans rentrer dans le détail, on pense que c'est... Enfin, on espère que ces rencontres professionnelles, en fait, elles sont aussi ouvertes au public. Donc,
voilà. C'est ce que j'allais te demander.
Pardon,
est-ce que c'est ouvert au public ?
Oui.
Ou est-ce que
dans la limite des places disponibles, mais effectivement, elles sont à l'attention des professionnels, mais aussi ouvertes au public. Et toute personne sera la bienvenue à condition de s'inscrire.
D'accord. Et ça va se passer où ? Aux grandes tables ? Ça se passe où ?
Ça se passe au...
Au petit plateau.
Mais ça se passe à la friche.
À la friche, ici, au petit plateau.
Ouais.
Et donc, ça va être quoi, sous forme de débat avec des invités qui vont parler de la place des musiques électroniques ?
Oui.
À Marseille plus général.
C'est un peu les deux. C'est à la fois un focus sur la scène marseillaise, un état des lieux de ce qui se passe aussi, parce qu'il y a eu la fermeture des docks. Quels sont les lieux d'expression, les lieux de diffusion ? Comment parler avec les institutions, comment essayer de développer, de travailler de manière constructive pour que cette scène puisse vivre, parce qu'il y a énormément d'acteurs, mais encore faut-il qu'il y ait des lieux, qu'il y ait des soutiens, qu'il y ait de l'accompagnement. Et puis on va pouvoir aussi évoquer des scènes d'autres territoires, d'autres villes, pour justement voir comment ça s'est organisé ailleurs, pour aussi prendre, j'allais dire, un partage d'expérience. Donc c'est Marseille, mais c'est pas que Marseille, c'est aussi des mises en perspective et pour essayer justement d'enclencher un peu une dynamique de travailler ensemble. Évidemment les partenaires publics vont être conviés. Il y a pas mal d'intervenants professionnels d'autres régions aussi.
Des réseaux, des témoignages d'artistes, des témoignages de personnalités de la
scène
de la musique, voilà.
Ah, hyper intéressant, ça donne envie. Vous avez des noms à nous donner d'invités il y a des artistes, hein, tu as dit aussi.
Alors alors il y a Jean-Yves Leloup qui est un journaliste, sociologue, musicien aussi, qui faisait de la production en musique électronique, qui va apporter un éclairage, qui va resituer la question des cultures électroniques de manière très synthétique. Il y a Michel Pilot, qui est un conseiller musique électronique, qui a travaillé avec les ministères, avec Jack Lang, avec Technopole, qui a aussi une culture de cette l'évolution, qui a soutenu aussi Radio FG à l'époque, donc qui a vraiment qui va nous permettre d'avoir un éclairage assez large. Et puis, il y a Cora Novoa, donc, qu'on a cité dans la programmation, une artiste espagnole, qui, elle, à la fois, qui a une musique, un projet très pointu, et à la fois qui se retrouve sur des scènes, qui est invitée de prestige sur des scènes comme le Mutec ou comme le Sonar, ou des galeries. Et donc, elle va donner aussi son éclairage sur qu'est-ce qui se passe dans cette scène, quelles sont les difficultés, à la fois quels sont aussi les axes, qu'est-ce qu'il y a d'intérêt. Enfin, elle va donner un éclairage en tant qu'artiste et sa propre expérience va être, c'est un témoignage qui va aussi nourrir les débats. Et puis après, on devrait avoir aussi nos camarades de Panda Event, donc de Nice, qui sont eux sur un projet, de labellisation d'une salle justement comme SMAC, qui pourrait être en grande partie aussi musique électronique à Nice. Donc c'est aussi cette... ça va donner aussi un éclairage pour dire comment eux, ils ont abordé ça, comment ils ont travaillé, développé ce projet à Nice. Ça permettra de comparer la situation aussi avec Marseille et d'échanger là-dessus. Hein.
Donc cette rencontre pro qui est ouverte à tout le monde, mais sur inscription, c'est vendredi juste avant l'ouverture des portes de l'Utopia Festival, à 18h, c'est ça c'est ça, 18h ?
Tout à fait.
Au petit plateau à la Friche. Et pour s'inscrire, on fait comment ? Parce que ça a l'air hyper intéressant, mais j'ai envie d'y aller.
Et eh ben c'est pareil, ça va être c'est sur nos réseaux.
D'accord, sur les réseaux de
c'est gratuit.
Utopia et Cabaret Aléatoire, c'est gratuit, oui, j'imagine.
Mais c'est sur inscription parce qu'il y a une jauge qui est limitée, donc il faut être inscrit et retirer son invitation, voilà.
Bah, hyper intéressant, bah, on y sera.
Là, on compte sur toi.
Carrément. Donc, on a parlé beaucoup de l'Utopia. Il nous reste quelques minutes. Juste, l'Utopia, ça marque aussi un peu le lancement de la saison pour le Cabaret Aléatoire. Vous avez quelques dates à nous donner pour le cabaret ou pas encore ? Ou on en parlera un autre moment ?
Non, on peut dire que ça, que la réouverture...
C'est quand ?
On laisse passer un week-end après Utopia, un week-end off pour remettre...
Les équipes
et les machines en route.
Ouais.
Et puis, après, on appuie sur le bouton tous les vendredis, samedis, à minima, puisqu'il y a aussi des dates en semaine jusqu'à nouvel ordre.
Hein. Donc, on reste sur les mêmes formats que les années précédentes, le format club...
Club cabaret le vendredi, dédié à...
Collectifs locaux.
Au collectif du territoire, avec à chaque fois un invité...
De la scène internationale.
Un invité de la scène nationale ou internationale. Et après, le samedi, avec des dates avec des organisateurs, enfin, ou des dates qu'on produit en direct, des dates avec des organisateurs. Ouais, on peut dire quelques noms là ou pas du tout ?
On peut.
Mais je sais que le collectif Ormerta a encore des soirées de prévues chez vous parce que vous êtes en.
Dont une avec Organique. Voilà, par exemple, on peut dire qu'il y a une Organique fois Ormerta.
Oui, qui est ça va être un des temps forts le 25 octobre. C'est une première d'un très gros collectif parisien avec lequel on travaille, on s'est rapproché. Omerta aussi, il y a une forme de collaboration qui est intéressante. Paris-Marseille, et donc là, ça va être une collab à trois entre le cabaret, Omerta et Organique.
D'ailleurs, on avait une date avec eux au Rex Club il y a une semaine.
Est-ce que vous faites aussi des productions hors de Marseille ?
Oui, là, c'est dans le cadre... On essaye, avant le festival, avant Utopia, on fait des préludes. Voilà, d'accord. C'est une manière... On a fait le Rex Club à Paris, on a fait le Dièse à Montpellier, des dates...
Ça s'est bien passé à chaque fois ?
Ouais, ouais. Non, très très bien. Ouais.
Et donc, du coup, ce public-là va venir à l'Utopia la semaine prochaine.
Eh bien, on espère,
ouais. Bah ouais, ils sont contents de venir à Marseille, ces jours-là. Les Parisiens sont contents de descendre. Bon, ben, merci beaucoup. Quelque chose à rajouter avant de se quitter ?
Tout remercier, à part ça, moi.
Ouais.
Non, allez, merci à toi. Bah,
merci à vous d'être venu. Et on se voit pour Utopia. Hein. Moi, j'ai envie de faire des petits reportages. Là, il y a plein d'artistes intéressants. Et la scène expérimentale, là, elle me donne vraiment très envie. Je suis très, très curieuse d'aller voir ça. Ça va être très sympa. Donc, nous, l'émission n'est pas finie. Ça continue jusqu'à 15h. Mais on va écouter un autre titre de Sam Paganini. C'est Reaching Out. Et on se retrouve juste après, toujours dans l'agenda alternatif sur Radio Galère. Merci beaucoup Pierre-Alain et Aurélien.
Merci.
reaching out. Reaching out.
Et c'était donc Sam Paganini avec Reaching Out. Sam Paganini qu'on retrouvera la semaine prochaine à l'Utopia Festival. On vient d'en parler pendant presque une heure avec nos invités Aurélien et Pierre-Alain du Cabaret Aléatoire, donc organisateurs de l'Utopia Festival. Ça va être une très très belle édition, cette cinquième édition qui se passe depuis cinq ans ici à la Friche Belle de Mai. Et c'est vraiment le conseil pour la semaine prochaine, hein, le conseil sorti du week-end prochain. C'est un festival qu'on attend chaque année depuis cinq ans à la rentrée avec beaucoup d'impatience quand on est amateur, amatrice de musique électronique. Et en plus, j'ai trouvé très intéressant cette rencontre pro avec un débat, avec une discussion autour de la place des musiques électroniques. Et ça aura lieu vendredi prochain à partir de 18h. Et pour s'inscrire, alors c'est gratuit, mais il faut s'inscrire pour assister. On peut faire partie du public. C'est toutes les infos sur les réseaux sociaux du Cabaret Aléatoire et de l'Utopia Festival. En tout cas, la thématique était hyper intéressante, donc ça, je vous le conseille. Et ensuite, le festival commencera à 21h30. Avant de passer à la suite de l'émission avec l'interview du producteur et DJ Anduge, producteur et DJ de hard music, de hard, j'allais dire hard rock, moi n'importe quoi. Pourquoi j'allais dire ça, de musique art techno, on va passer d'autres sons et je voulais vous parler d'un événement qui a eu lieu cette semaine. Événement très intéressant, on va dire, ça s'est passé en Angleterre. Et c'était, alors attendez, je me remets sur la bonne page, sur la bonne page, Together for Palestine. Ça s'est passé en Angleterre, c'était un énorme événement qui a rassemblé plein d'artistes et des artistes qu'on aime. Et moi, je suis contente de me dire, en fait, les artistes que j'aime, je suis fière de les aimer encore plus quand je vois que c'est quasiment tous ces artistes-là sont hyper engagés pour plein de causes, et notamment la cause palestinienne. De toute façon, vu tout ce qui se passe, il faut vraiment être engagé. C'est la cause du moment, évidemment. Et donc, plusieurs artistes anglais ont participé à cet événement. C'était en live, c'était un événement caritatif. C'était mercredi soir. Et en même temps, on l'avait en live stream. C'était hyper bien. Alors moi, j'ai pas tout vu parce que j'ai mes cours de danse ce soir-là, mais j'ai regardé les vidéos le lendemain. Le collectif s'appelle Together for Palestine. Force, ça s'écrit avec un 4. Et le site internet, c'est togetherforpalestine.org. Voilà, vous pouvez continuer à regarder les vidéos sur ce site et avoir tous les renseignements sur ce collectif. Donc, comme je le disais, ça s'est passé mercredi dernier et il y avait vraiment de très 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 beaux artistes. Il y avait mon artiste préféré, Jamie XX, il y était. Il y avait également Hot Chip, super groupe qu'on adore aussi, Hot Chip, James Blake, pour ne citer que, hein. Il y avait Saint Levant, évidemment, qu'on adore, qu'on a vu à Marseille pour Mars Attack, et c'était juste génial, sa prestation. Il y avait même des acteurs comme Benedict Cumberbatch qui a plusieurs fois porté la voix des Palestiniens, hein, sur ces réseaux et officiellement. Donc c'est bien, c'est pas des artistes qui au dernier moment, maintenant que tout le monde dit c'est atroce ce qui se passe à Gaza, qui se réveillent au dernier moment. Non, c'est des artistes qui ont toujours porté la cause depuis le début et depuis des années et même des dizaines d'années pour certains. Il y avait également Damon Albarn, il y avait Brian Eno, King Cole. Qui j'oublie, j'en oublie plein parce que ils étaient très nombreux. Ça s'est passé mercredi dernier. Il y avait Bastille aussi, très très bon ce groupe Bastille. J'allais dire c'était à Wembley, mais je suis pas sûre à 100%. En tout cas, on peut voir les vidéos de ces performances-là. Et il y avait une vidéo du groupe Portishead qu'on aime beaucoup. Il y avait une performance du groupe Portishead qu'on aime beaucoup, qui a écrit une chanson pour ça. C'est Rhodes, mais version 2025 pour Together for Palestine. Et on va l'écouter tout de suite. Donc, ça fait toujours du bien d'écouter Portishead. Ça va adoucir un peu notre programmation qui était plus techno. En plus, on va terminer avec de la hard techno. Ben voilà. Ça va nous faire du bien. On écoute Portishead avec Rhodes version 2025 pour Together for Palestine. Et c'est le live que le groupe a donné mercredi dernier pour ce grand concert caritatif en faveur de la Palestine et pour le collectif et l'association Together for Palestine, que vous pouvez retrouver sur togetherforpalestine.org.
Can't anybody see? We've got a war to fight. Never found a way. Regardless of what they say, how can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? Stone in the morning light. No more can say.
les oreilles là.
Can't anybody see? We've got a war to fight here. We'll never find a way. Regardless of what they say. How can this wrong? From this moment, how can it feel this wrong?
C'était donc Portishead avec Rhodes, mais 2025, pour Together for Palestine. Donc ce grand événement live stream qui a eu lieu mercredi dernier. Et vous pouvez le retrouver sur le site internet togetherforpalestine.org. Et en fait, alors parce que je lisais un peu où va l'argent récolté grâce à cet événement, c'est pour plusieurs organisations qui œuvrent sur le terrain à Gaza, donc des organisations palestiniennes comme Tawon, The Palestine Children's Relief Fund, Palestine Medical Relief Society. Et voilà, 100% des donations vont à ces organisations-là qui œuvrent sur le terrain. Donc, vous pouvez aller voir les vidéos et aller sur le site internet. Il y a du merch aussi qu'on peut acheter avec évidemment tous les bénéfices qui vont pour la cause. En plus, il est sympathique, le merch. Je vous conseille d'aller voir tout ça. Allez, on va passer à toute autre chose maintenant. Je vous l'ai dit, après ce moment de petite pause et de volupté avec la voix donc, de la chanteuse de Portishead, on va écouter de l'art techno, mais pas de suite, parce que juste avant, on va donc écouter l'interview de Anduge. C'est notre dernier reportage du jour. J'ai envie de dire, notre dernier reportage qu'on a fait au Delta Festival. En fait, on a suivi, pour les auditeuristes qui n'étaient pas là les semaines précédentes, nous avons suivi des jeunes talents de la scène des talents émergents. Donc, c'était un tremplin organisé par le Delta. On nous a expliqué ce tremplin dans le reportage qu'on a fait la semaine dernière. En gros, il y a eu des dizaines et même des centaines de participants. Il fallait que ça soit des artistes qui avaient moins de 10 000 abonnés. Donc voilà, ils voulaient vraiment des jeunes artistes, des artistes émergents. il fallait qu'ils aient au début le plus de likes sur leur post pour être sélectionnés pour le tremplin. Et ensuite, il y a eu un jury qui en a sélectionné une dizaine. Et ensuite, il y a eu une gagnante, c'était Tiffen. Nous l'avons interviewée, nous avons diffusé son interview la semaine dernière. Parmi les sélectionnés, le DJ... Alors, il y avait tous les styles de la pop... comme Tiffen hein, qui nous a fait de la pop, le groupe Étoile aussi qu'on a interviewé qui faisait une pop tropicale, très ensoleillée, très sympathique. Il y a eu du rap aussi et les musiques électroniques étaient également à l'honneur à travers de différents DJ et c'est Anduge donc qu'on a rencontré. Et Anduge, vous allez voir, vous allez écouter pendant l'interview, peut-être que ça vous dit quelque chose. Vous l'avez vu quelque part, je suis sûre, si vous traînez sur les réseaux sociaux. Il a eu une petite notoriété fulgurante pour un truc qu'il a fait assez dingue. Il va en parler lors de cette interview qu'on écoute tout de suite. Donc, c'est l'interview d'Anduge qu'on a rencontré, je crois que c'était le samedi soir au Delta Festival. Après son set c'était le vendredi soir, on l'a rencontré le samedi. On écoute ça. Alors attendez, parce que j'allais. Voilà, normalement. On est au Delta Festival. Tu étais un des gagnants du tremplin. Toi, tu fais de la hard tech, du hardcore. C'est ça?
Alors plutôt hardcore, non, je dirais.
Ouais, pas hardcore, ouais.
Hard techno. Ouais. Et j'aime bien, vers la fin de mes sets ou même entre, mettre des sonorités indus. Ouais. Avec, selon vu que je fais de l'impro aussi quand je mixe, donc je sais jamais ce que je vais mettre sur la platine. Et, mais voilà, vers la fin de l'indus ou même de la raw. En gros, c'est mon délire.
Et donc, du coup, t'es un des gagnants du tremplin organisé par le Delta Festival. Tu viens de Montpellier, c'est ça?
Ouais, de Montpellier.
Et c'est marrant, hein. T'es DJ, tu fais de la techno, tu viens de Montpellier, ça va ensemble, hein. C'est le package. Hein.
Je reste dans le domaine.
Ouais. Comment ça s'est passé ce tremplin? Pourquoi t'as décidé de t'inscrire? Comment t'as gagné? Raconte-nous un peu tout ça.
Ben, en fait, ça vient aussi un peu de, je pense, la fin qu'on partage tous entre petits artistes, entre guillemets. C'est-à-dire, ben, on veut avoir de la visibilité, on veut montrer ce dont on est capable. Et du coup, quand j'ai vu l'occasion de pouvoir mixer au Delta Festival par le biais du tremplin, j'ai dit bah, tout simplement je tente ma chance, je verrai bien. Et quand il y a eu le système avec les votes et tout, bah, je me suis donné tout simplement à fond. J'ai travaillé ma communauté, j'ai des gens qui m'ont aidé et tout ça fait que bah, j'en suis là maintenant tout simplement.
Alors Duche, toi t'as une histoire particulière par rapport aux autres du tremplin, parce ouais. que les autres c'est vraiment quand tu regardes leur compte et tout, bon, ils n'ont pas énormément d'abonnés, il y en a qui commencent, bon, il y en avait qui, ouais. qui faisaient de la musique depuis longtemps, mais toi je regarde ton compte et je me dis mais il est connu quand même Anduge dans le milieu. Vas-y. Et en fait c'est que tu as une histoire avec Nico Moreno, tu peux nous en parler? C'est comme ça que tu as été propulsé en fait, c'est ça?
Je dirais surtout, je pense, c'est tous les collègues du milieu de la nuit du coup à Montpellier avec du coup mon collectif Modern Ray qui m'ont vraiment fait monter sur la scène locale et mis en avant. Et en fait c'est tout bête, mais l'histoire avec Nico Moreno, c'est vraiment partie d'un délire de soirée avec mes potes lorsqu'on était un peu éméchés, en disant ben voilà, il a fait une online longue, ce serait trop marrant s'il peut te faire monter et tout. J'ai dit ben il me connaît pas, je suis dégain, enfin voilà.
Et en fait, il jouait à une soirée à Montpellier, c'est voilà. ça
Ah non, c'était pas Montpellier, non. C'était à la Halle Tony Garnier à Lyon.
À Lyon, ouais.
Et en fait, c'est vraiment partie d'un délire. J'ai fait ben je vais prendre un carton et j'ai écrit un truc dessus, une transition égale une masterclass. Et il l'a vu, il s'est tapé une énorme barre. Vraiment, je me suis dit, oh, il va se foutre de ma gueule. Et on a un peu vibé à distance. Il a coupé le son net en plein drop et il m'a vraiment fait hop, viens par là. Et je suis monté et j'ai pu faire la transition avec lui.
Et qu'est-ce qui s'est passé exactement quand t'es monté? Alors déjà, tu t'y attendais à qu'il te fasse monter?
Ah non, vraiment pas du tout. Parce que vraiment, nous on était vraiment là pour le délire. C'est-à-dire qu'il a repris le micro et il m'aurait dit, ouais, t'es fou, toi, tu crois que je vais te faire monter? C'est pas grave, j'étais content, ça me faisait rire. Et ouais. L'important, c'était vraiment la vibe. Et quand je suis monté, je pense qu'il me connaissait pas, il pensait que c'était vraiment quelqu'un de lambda. Et il m'a dit, je lui dis, bah, je peux faire ce que je veux. Et il m'a fait, ouais, vas-y. Et là, je pense son regard, il a changé, on voit un petit peu sa vidéo. Mais je commence à tourner un peu la molette, faire un truc de DJ que.
Je l'ai vu la vidéo.
Ouais, tu vois, les gens ne peuvent pas faire ça. Ouais. Et là, je me suis dit, bah, la seule chose que je peux faire sans trop gêner son set, c'est scratcher. Donc j'ai regardé Spectre, j'ai scratché, j'ai fait le truc, on a vibé ensemble, le drop. Et à la fin, du coup, bah, moi. timide un peu et même respectueux. Je me dis, bah, je m'en vais. Et il y a un mec de l'orga qui m'a tenu par la main et qui m'a donné un bracelet pour rester avec eux.
Donc, génial. Et après, t'as passé la soirée là-bas avec Nico Moreno.
La dernière heure et demie, en fait, à regarder Nico mixer, parce que j'aime beaucoup son style de mix et tout. Et bah, c'était trop. Je me suis amusé, j'ai appris. J'ai même parlé avec d'autres DJ qui étaient là et que j'avais déjà rencontré à d'autres soirées ou autres. Donc, c'était vraiment. C'était trop bien en fait, j'ai
mais
pas le mot.
Elle est géniale cette histoire, elle est énorme. Elle est vraiment dingue. Et c'est ça qui t'a un peu propulsé parce que du coup c'est passé vachement sur les réseaux cette vidéo.
Bah en vrai je pense que ça m'a donné énormément de visibilité, vraiment sur le point de vue juste visibilité tout court. En mode ah il y a un mec qui a fait ça.
Ouais.
Et du coup bah, ceux qui étaient curieux se sont renseignés sur moi. Et ceux qui n'étaient pas curieux, bah, ils se disent bah il y a un mec qui a fait ça. Et peut-être des fois bah, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont dit ah, bah, c'est toi et qui captent que après, tu vois. Mais non, vraiment ça m'a donné je pense beaucoup de boost. Vraiment c'était vraiment cool et je remercie d'ailleurs encore une fois.
Et t'as gardé des liens avec Nico Moreno?
Non,
du coup
du tout. Non. En vrai pour être sincère j'ai parlé un petit peu avec lui mais on voit que c'est dans un autre monde, c'est à dire il a tellement de trucs à faire, tu vois, il a fini son set, je parle quoi une minute avec lui, il me dit ah, je suis désolé, je dois prendre des photos avec les gens, il est dans son
après
c'est normal
star,
tu vois, il est là pour travailler et tout, mais juste ça déjà je suis très content, je ne demandais pas plus.
Mais non mais c'est une super histoire. Et donc là on revient au Delta, toi tu as joué hier ouais, j'étais là hier avant-hier, je sais plus quel jour on est, hier donc le vendredi soir mais en même temps que I Hate Models.
Ouais, c'est ça.
Mais t'as réussi à rameuter 200 personnes devant ta scène, c'est énorme.
C'était vraiment le stress, c'était de me dire bah I Hate Models il attire énormément de monde, il est très connu, moi je suis personne, donc est-ce que je vais attirer du monde? Et je me suis dit fais ta com sur tes réseaux et ce jour J, tu verras bien. J'ai commencé le set, il y avait on va dire 20 personnes, 20, 30 personnes grand max.
Ce qui est déjà pas mal pour la scène lab.
Bah ouais, apparemment on m'a dit voilà, c'est vraiment pas mal. Mmh. Et après, vraiment vers la fin du set, on devait être 150-200 dans ces eaux-là. Donc c'est peut-être pas beaucoup. Voilà,
mais... Ah non, c'est énorme pour la scène lab. Hein.
Moi, je sais pas, j'étais timide à ce niveau-là et j'étais super content. Tous mes potes ils m'ont dit c'était trop bien. J'ai amené des gens qui devaient aller voir Hate Models qui sont arrêtés et qui sont restés jusqu'au bout.
Ah,
qui me l'ont dit, donc
tu as fait la concurrence à Hate Models quand même.
Concurrence, ouais. Mignonne alors.
Tu lui as enlevé 200 personnes.
Ouais, allez, j'envoie un message, il dira jamais.
Ouais, voilà. Non, mais en fait aussi la configuration hein, pour les auditoristes là, qui ne sont pas venus au Delta Festival, en fait cette scène lab elle est un peu dans un espèce de couloir. Bon, c'est tout en plein air évidemment, mais entre la grande scène et la scène Eden qui est la scène techno, plus loin il y a la hard stage, ouais. Et en fait les gens passent par là en vrai, donc en gros en passant on peut écouter dire oh c'est pas mal et s'arrêter un petit peu,
voilà. Et j'ai réussi à meuter un peu mon monde et tout, j'ai des gens aussi qui me connaissaient de Montpellier ou d'autres qui m'ont sur les réseaux qui sont venus me voir, donc ça m'a fait aussi très plaisir. Mais ouais, super expérience. On est rentré après à la maison, tout content, les étoiles dans les yeux et très content.
Parce que le Delta, tu connaissais?
Ah oui, je connaissais le nom. Je l'avais jamais fait parce que à Montpellier, c'est surtout, peut-être, je vais dire une bêtise, mais on est surtout plus proche de Insane en fait.
Oui,
qui est
oui,
proche,
qui
apte. Indirectement, on va à l'Insane parce que c'est plus proche. Mais je connaissais le Delta de nom, j'avais des collègues qui avaient déjà mixé ici, etc. Donc oui, je connaissais et c'était un festival qui m'intéressait. Donc voilà.
Bon, est-ce que tu as fait un set particulier pour le set d'ici sur cette scène tremplin?
Vraiment, je fais que de l'impro. C'est-à-dire
c'est
que
génial.
Je ne peux pas faire mes sets à l'avance parce que je trouve que indirectement mon point fort c'est de lire une foule, vu que j'ai fait 2 ans de commercial où je mixais du rap, de la pop, etc.
Ah ouais. Ah t'étais DJ commercial avant.
Pour faire très court, moi je suis étudiant en pharmacie en fait. Et je voulais trouver un job étudiant qui finance mes études sans demander de l'argent à mes parents. Et je voulais apprendre à mixer, donc j'ai fait je vais commencer par ça. Et pour avoir des dates rapidement et avoir un petit salaire, un petit pécule pour payer ton loyer et vraiment tes courses, etc. Mais commercial, c'est beaucoup plus facile. T'as beaucoup plus de dates facilement.
Mais genre, tu jouais dans les mariages, les trucs comme
ça? Ouais, mariage, bar, boîte de nuit à Montpellier commercial. J'ai fait mon petit tour. Mais moi, ce que j'écoute de la techno, tech house et même bass house. Et après, je me suis dirigé vers la techno quand ça commence à peu près. Au début, ça a commencé à péter. Vraiment, fin de Covid, avec les soirées de possession avec du coup, Nico Moreno, Trim, etc. Moi, j'ai commencé à rentrer à ce moment-là. Et ça m'a énormément plu. Et le temps de rentrer dans le milieu DJ techno à Montpellier, ça a été un peu dur parce que tu connais personne. On te connaît vite fait de nom parce que tu sais, lui, mix du commercial. Et petit à petit, j'ai créé mon réseau. Et je suis rentré dans le milieu et j'ai lâché le commercial petit à petit. Et voilà, et je suis allé vraiment vers quelque chose qui me plaisait, la techno, quoi.
D'accord. Mais le truc que tu dis de pas préparer ton set.
Oui, c'est vrai. J'ai pas répondu à la question.
Non. Mais donc, du coup, tu prépares pas ton set, mais, voilà. c'est très bien.
J'ai
tu
gardé
sais que...
une vibe commerciale, c'est-à-dire que je lis la foule. Mes 10 premières minutes, c'est les 10 minutes. Les plus hasardeuses de mon set parce que je sais pas ce que va préférer la foule et même selon les villes ou les lieux, des fois c'est plus la petite trance, des fois c'est plus l'indus, des fois c'est plus l'art techno qu'on connaît classique, des fois c'est plus avec des consonances raw, des trucs comme ça. Et du coup, je regarde comment les gens réagissent et je fais ok, je vais plus adapter mon set vers ce qu'ils aiment tout en gardant ma patte artistique et le but de les choquer quand même avec des sons différents à droite à gauche. Donc là, c'était vraiment que de l'impro.
Que de l'impro. Et donc ça a été plutôt Artek là, j'imagine, ouais, comme il y avait 8 Models.
J'ai une grosse ossature toujours Artek.
Ouais, ouais.
Et vraiment l'Indus et la Rose, ça complète, on va dire, mon set. Mais ouais, après j'ai joué aussi mes sons à moi.
Alors voilà, j'allais te demander, parce que tu mixes mais tu produis aussi.
Ouais, je produis aussi.
Alors qu'est-ce que tu produis
Moi je produis vraiment de la Art Techno avec des consonances Art Techno, voire Indus, parce que j'aime bien. Produire ça, c'est un truc que je kiffe bien. Et pour donner un peu pareil aux auditeurs un exemple, moi des gars que j'apprécie beaucoup le travail, c'est des gars comme Exodia, William Luck, même Luke Noise, qui sont vraiment des DJ qui arrivent à avoir ce kick entre l'indus et la art techno que j'aime beaucoup. Et donc du coup c'est mes grosses sources d'inspiration.
Ok, bah super, mais c'est déjà hyper beau de pouvoir mixer et produire parce que c'est pas donné à tout le monde.
Bah je voulais vraiment apporter ça en plus. En fait, moi je me sens plus DJ que producteur parce que c'est ce qui me fait vibrer de partager ça avec les gens.
Et c'est ce que tu as commencé par ça aussi.
Voilà, et je voulais vraiment apporter mes kicks à moi. Et donc du coup j'ai appris petit à petit à produire. J'ai aussi les...
Ah bah c'est les feux d'artifice.
Ah
On va les laisser passer ou pas?
On fait une pause.
Et
ça tourne.
Donc on a été coupé par les feux d'artifice du Delta Festival, ouais. Mais on parlait de tes productions parce qu'en plus d'être DJ, tu fais de la production également. Et tes prods, voilà, c'est ça que je voulais te demander. Tu les fais sur quoi?
Moi, je l'ai fait sur Ableton.
Ouais,
j'ai
comme
commencé
beaucoup,
sur Ableton, donc je suis resté sur Ableton et j'ai des potes qui sont sur Ableton, FL. Et de toute manière, on peut faire du cross-partage, donc c'est pas vraiment un souci.
Ouais, ouais. Et tu te vois après sur des machines ou tu veux rester sur l'ordi?
Alors, j'aimerais, c'est parce que je trouve que ça donne du cachet à.
Complètement.
au côté producteur, etc. Mais aussi, il faut savoir que j'essaie de montrer une certaine humilité sur mes prods parce que je sais que ça fait à peu près que 2 ans que je fais de la prod. Donc comparé à des gars qui sont là depuis 8 ans, 9 ans, j'ai tellement de choses à apprendre. Donc je préfère d'abord être ultra fier de mes prods et me dire ouais là ça y est, je me considère comme... Parce que je dis que je suis producteur, mais je me considère pas comme producteur d'un point de vue comme les autres ont pu commencer.
Ouais, comme
prod, etc.
Ouais, musicien quoi, en gros, voilà. Entre guillemets, organique
là,
quoi.
Voilà, c'est ça. Pour l'instant, je veux vraiment avoir aussi gagné une sorte de légitimité envers des autres artistes, montrer que voilà, maintenant je fais ces prods là, est-ce que ça te plaît? Ah, putain, je sens un step up, vas-y, je vais la jouer. Ça, tu vois, pour moi, c'est une reconnaissance. Et donc, d'abord, je veux vraiment avoir cette reconnaissance et même cette légitimité que je m'impose à moi-même pour pouvoir ensuite après investir dans des machines et être vraiment à l'aise dans mon monde, etc. Savoir de quoi je parle en fait.
Et tes productions, on peut les retrouver ou tu les fais que pour toi, pour tes mix?
Non, je les mets sur SoundCloud, Spotify, etc.
Ouais, sur SoundCloud
en plus. Là, je suis content parce que parmi mes objectifs, j'ai réussi à passer un step-up, c'est que j'ai réussi à mettre 2 futurs tracks sur 2 labels.
C'est ce que j'allais te demander, voilà. Si t'as des tracks.
Il y a des tracks que j'ai joués hier qui vont sûrement popper, pour une pour octobre et une pour novembre. Donc je suis content. Il y a une track aussi que j'ai fait avec un ami à moi que j'ai de suite rencontré dans le milieu de la techno, qui est Paul Sky, qui est aussi un DJ à Montpellier, qui fait partie du collectif. Et on a fait une prod qu'on va sortir en septembre. Et j'avance petit à petit. Voilà.
Et il y a déjà d'autres DJ qui ont joué tes tracks, tu le sais ça?
Ouais, j'ai cette chance-là. J'ai eu un Code Data par exemple qui a mixé une de mes tracks. J'ai des gars comme Nice Kid qui m'ont téléchargé aussi une de mes tracks.
Qui était là d'ailleurs, Nice Kid.
Ouais, qui était là, que j'ai pas vu du coup. Mais
ouais, sur la scène Hard ou Colisée,
ouais,
je sais plus.
Je crois.
Ouais.
Il y a des gars comme Tam aussi. Il y a CLTX, Donc non, j'arrive
à avoir cool.
un petit truc, mais ouais, je suis pas encore satisfait. Tu vois, je suis en mode, je suis très exigeant envers moi-même, il faut savoir.
D'accord.
Donc j'essaie de vraiment me mettre des beaux paliers pour être vraiment sûr de moi. Et, voilà.
Donc ces tracks-là que tu joues dans tes sets au milieu de tracks d'autres personnes.
Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, bien sûr, je fais ma com en disant, bah, dès que j'ai une vidéo de ça, je suis, ben voilà, une release, track va bientôt sortir, et voilà, je fais ma com.
Ouais, ok. Et tu sais, quand tu disais, alors c'est plutôt rare, hein, c'est ça qui est cool, que tu prépares pas du tout tes sets, tes mix, et tu le fais sur le moment, c'est exactement ce que dit Laurent Garnier. Tu sais ce qu'il dit, Laurent Garnier?
Oui, il avait l'interview qu'il a fait, je sais plus pour qui, mais
il dit que qu'un vrai DJ, il doit pas préparer son set. Après, il disait ça. C'est chaud quand même de dire ça.
C'est vrai que quand j'ai vu ça, pour moi, c'est logique, tu vois. Ouais. Je pense, dépend aussi comment tu as appris. Si tu as appris avec quelqu'un qui t'a toujours dit, il faut préparer ses sets, ben, indirectement, tu as préparé tes sets. Et moi, vu que je faisais du commercial, et commercial, là, je suis catégorique, c'est une hérésie de préparer un set en commercial.
Ah ouais, mais tu sais que je savais pas ça.
Pour moi,
je pensais quand.
Parce que tu t'adaptes tellement aux gens.
Ben oui, par rapport.
Ça sert de transition et